Bonjour mes frères et mes sœurs. Tout en ce bas monde a un commencement et une fin. Tout change. Chaque jour, nous avons des expériences nouvelles. Chaque jour est un jour nouveau et des défis nouveaux. Chaque jour, nous avons des épreuves. Mais comment vous réagissez-vous vous-même? Quelle est votre attitude devant les changements? Comment acceptez-vous le défi que chaque jour vous apporte? En fin de compte, je peux dire que chaque jour est un nouveau commencement. Avez-vous jamais pensé à cela? En tant qu'enfant, nous prenions des décisions légères. En tant qu'enfant, nous n'étions pas vraiment responsables des décisions que nous prenions. Mais une fois adultes, les choses changent. Nous devenons responsables des décisions prises et nous sommes coupables ou bien nous sommes innocents, tout dépend. Nous guidons nous-mêmes notre vie en tant qu'adultes parce que les décisions que nous prenons dirigent la façon ou bien dirigent la voie que nous prenons. Si vous prenez le temps de réfléchir, vous constaterez que la vie est un perpétuel commencement. Chaque jour, à chaque instant, nous avons des décisions que nous prenons, des décisions qui changent notre vie, des décisions qui nous mettent en quelque sorte devant un nouveau commencement. Je vous demande un peu, quel a été le plus grand commencement dans votre vie, vous qui êtes dans l'Église? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous êtes né? Certes, maintenant vous le savez, mais avant d'être appelé à être dans l'Église, saviez-vous pourquoi vous êtes né? Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Ce sont des questions que nous posons et de ces questions, nous avons un commencement, pour ainsi dire. Pour vous, pour moi, nous avons connu un tel commencement. Mais avez-vous vraiment cherché auparavant la raison de votre existence? La vérité en ce qui concerne Dieu, sa création, le but de la création. Notez à ce propos ce que le prophète Ésaïe déclare, et je cite Ésaïe 55, chapitre 6 à 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Intéressant. Dieu est toujours là, Dieu ne change pas, Dieu ne disparaît pas, mais Ésaïe dit, sous l'inspiration divine, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Quand est-ce que nous ne pouvons pas trouver l'Éternel? La réponse est simple. Lorsque nous fermons les yeux, spirituellement parlant. Lorsque nous ne voyons pas la main de Dieu dans tout ce qui se passe. Je poursuis. Cherchez l'Éternel, dit Ésaïe, chapitre 55, versets 6 et 7, pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça, c'est intéressant, car souvent, nous pensons lui parler, nous pensons lui demander des choses, mais en réalité, nous faisons notre propre volonté. Ésaïe continue, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie. » Voilà comment vous pouvez vraiment vous approcher de Dieu. « Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel Dieu. » Qui aura pitié de lui? Dieu a toujours pitié de nous lorsque nous nous tournons vers lui. Voyez-vous, c'est ça qui compte. Tournons-nous vers l'Éternel Dieu. Et alors, nous aurons des miracles dans notre vie. Éternel Dieu qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà le secret. Dieu est toujours bon, toujours juste, et il ne se lasse pas de pardonner. Notez particulièrement les versets qui suivent, Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car nos pensées, voyez-vous, nos pensées, vos pensées, les nôtres, car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voies ne sont pas les voies de l'Éternel. C'est ce que la Bible déclare. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, regardez voir cette comparaison, autant, dit l'Éternel Dieu, autant mes voies, dit-il, sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous qui sommes dans l'Église de Dieu, nous avons connu un nouveau commencement. Le moment où Dieu nous a appelés, nous avions un choix à faire. Nous pouvions accepter l'appel divin ou le rejeter. Eh bien, vous qui êtes là, vous qui me regardez maintenant ou bien qui m'entendez maintenant, vous avez pris une décision. Cette décision vous a amené dans l'Église de Dieu. C'était pour vous un nouveau commencement. Vous avez décidé de suivre Dieu, d'apprendre sa volonté, de faire sa volonté, de vous soumettre à ses commandements. Mais, voyez-vous, nous sommes quand même au début, nous sommes quand même des enfants, parce que nous n'avons pas vraiment grandi, nous n'avons pas vraiment compris en profondeur la réalité divine. Je répète, la vie est un changement permanent, la vôtre et la mienne. Nous avons nos propres penchants charnels, nos désirs, qui ne sont pas nécessairement les penchants de Dieu ou bien les désirs divins. Autrement dit, nous ne sommes pas toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça, c'est important, car voyez-vous, c'est ici où les difficultés commencent. Lorsque mes penchants ne sont pas ceux de Dieu, lorsque mes désirs ne sont pas ceux de Dieu, dans ce cas-là, il y a un conflit. Et ce conflit peut être dramatique, peut être, je dirais, même fatal en quelque sorte, si nous ne nous réveillons pas à temps. Lorsque, en rentrant à l'Église, nous avons pris une décision, cette décision de nous soumettre à Dieu, nous nous sommes en quelque sorte rendus à Dieu. Nous sommes devenus ses esclaves, mais esclaves à un maître qui est bon, qui est juste, qui connaît toutes choses et qui nous aime. Il y a une grande différence entre le terme esclave humainement parlant et le terme esclave divinement parlant. Être esclave de Dieu signifie être protégé, être guidé, être aimé. Voilà pourquoi le moment où nous nous sommes rendus à Dieu, nous sommes devenus ses enfants. Pour le moment, ses enfants physiques ne sont pas encore nés de Dieu. Laissez-moi citer aujourd'hui, en quelque sorte, quelques exemples bibliques des personnes, des individus que Dieu a appelés et qui ont dû prendre une décision, qui ont eu un commencement, comme vous, comme moi, un nouveau commencement. Et vous verrez la façon dont ils ont réagi, la façon dont ils ont répondu à l'appel de Dieu. Je répète, un changement n'est pas toujours facile. Mais un changement, si c'est un changement que Dieu nous impose, dans ce cas-là, ce changement peut vraiment être important et utile pour nous. Si Dieu est votre guide, votre inspiration, votre maître, si vous le laissez vous diriger en toutes occasions, vous pouvez être sûr que vous prenez la bonne décision. Mais cette décision ne sera pas toujours d'après votre, je dirais, désir. Autrement dit, nous faisons les choses de la façon dont nous voulons et nous voudrions parfois que Dieu fasse les choses à notre façon. Le secret d'avoir un nouveau commencement en toutes choses, c'est de faire de la volonté de Dieu, même si cette volonté ne nous plaît pas. Autrement dit, si Dieu nous dit quelque chose, et si ce quelque chose n'est pas d'après notre désir, nous devons quand même faire ce que Dieu dit, et non pas ce que nous voulons faire. Prenez l'exemple d'Abraham. D'Abraham était un homme riche, il avait une bonne famille, des enfants. Il avait 75 ans, autrement dit, il n'avait plus rien à changer dans sa vie. Et voilà qu'un beau jour, Dieu l'appelle. Quel changement, quel commencement. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, il dit, va-t'en. Regardez voir la façon dont Dieu appelle Abraham, un homme qui était déjà presque, qui avait déjà presque tout ce qu'il voulait. Il ne voulait pas, franchement, changer sa vie complètement à cet âge-là. Et pourtant, Dieu lui dit, Genèse 12, versets 1 à 4, il dit, « Va-t'en de ton pays. » Il faut qu'il quitte son pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Abraham ne savait pas quel était ce pays. Il ne savait pas pourquoi le demande tout d'un coup, « Va-t'en loin de ton pays. » Mais après, il y a une grande promesse. Dieu lui dit, verset 2, « Je ferai de toi, dit-il, une grande maison. » Voilà une belle promesse, un nouveau commencement. « Je te bénirai, dit-il, éternel Dieu, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Voyez cette récompense, une grande récompense, mais à quel prix? Abraham devait changer sa vie. Abraham devait commencer une nouvelle vie. Abraham avait besoin de changer sa façon de vivre, sa façon de penser, pour ainsi dire. C'est comme nous autres, lorsque Dieu nous appelle. Et Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà une belle promesse. Vous savez quoi? Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Voilà, voilà le secret. Face à un nouveau commencement, vous partez, vous faites, vous commencez comme vous devez le faire. C'était un défi pour lui. Alors, quelle année en ce qui concerne votre réponse, votre attitude, lorsque Dieu vous lance un défi? Savez-vous que c'est par Abraham que nous sommes bénis aujourd'hui? Notez-le, Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi, d'abord montrer comment Abraham a réagi. Nous pouvons apprendre de lui une grande leçon. C'est ici la façon de répondre à Dieu, de répondre à sa demande, de répondre à son appel. C'est par la foi. Ah, voilà, voilà le secret. C'est quoi la foi? La foi, c'est de faire ce que Dieu dit et d'être sûr que ça sera le bon chemin à prendre. Même si, je répète, la décision qui vous est imposée n'est pas conforme à vos désirs, vous faites ce que Dieu vous dit. Donc, c'est par là, ça c'est la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Voilà, voilà le secret. Nous obéissons à Dieu par la foi. Obéit et parti pour un lieu, regardez ce qui suit, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Voyez-vous, Abraham a eu foi en Dieu. Il ne savait pas dans quel pays il allait, qu'est-ce qui allait se passer, il ne savait pas du tout. Mais il est parti parce que Dieu le lui avait dit. Il est parti sans savoir où il allait, mais Dieu le savait. Et c'est tout ce qui compte. Verset 9, Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham vint s'installer dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. C'est notre vie à nous, en quelque sorte. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers, c'est-à-dire ses enfants, de la même promesse. Pourquoi? Car ils attendaient. Voyez-vous, ça, c'est la foi. Ça, c'est le but de notre vie. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. En ce moment-ci, mes frères et mes sœurs, le monde dans lequel nous vivons, bien que créé par Dieu, n'a pas suivi la volonté de Dieu. Donc, ce n'est plus le monde divin. C'est un monde créé par les hommes. C'est un monde influencé par Satan, le diable, car Satan fera tout pour nous détruire. Alors qu'Abraham, malgré son âge avancé, malgré ses difficultés physiques, a obéi à Dieu. Vous savez, c'est intéressant de voir la vie d'Abraham. Vous n'avez qu'à lire la Bible et voir les détails. Mais une chose Abraham a fait, il ne s'est pas détourné de cette décision qu'il avait prise sous l'influence divine. Il a toujours eu en vue la raison pour laquelle il a été appelé et ce que Dieu lui demandait de faire. Voilà pourquoi Abraham est appelé dans la Bible le père des croyants. Continuons. Donc ça, je vous donne en résumé la vie d'Abraham. Prenons Moïse, un autre serviteur de Dieu. Alors, qui était Moïse? Au commencement, vivant en Égypte, ses parents avaient peur de sa vie parce que le roi égyptien avait déclaré que tous les enfants nés, nouveau-nés, les mâles, devaient être détruits ou bien tués. Et voilà que Moïse, un enfant des Hébreux, est né. Ses parents ont caché, parce qu'ils voyaient l'enfant, c'était leur enfant évidemment, et ils voyaient que l'enfant était vraiment beau. Évidemment, tous les parents pensent que leurs enfants sont beaux, mais ça c'est entre guillemets. Alors qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi citer exactement ce que la Bible dit à cet égard, Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant 3 mois. Et ensuite, il devient l'enfant. Alors, c'était un enfant beau. Et plus tard, ça, je paraphrase maintenant, il devient un enfant qui a vécu dans le palais royal en Égypte. Mais laissez-moi revenir à la Bible. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, voyez-vous, une fois dans le palais royal en Égypte, il n'avait pas grand-chose à dire parce que c'était un enfant et il se faisait guider par les autres. Mais une fois adulte, voilà le secret. En tant qu'enfant, vous avez fait beaucoup de bêtises, comme moi du reste. Malheureusement, nous faisons encore beaucoup de bêtises en tant qu'adulte. Mais en tant qu'enfant, nous n'étions pas vraiment responsables de ces bêtises. Parce que nous ne comprenions pas beaucoup. Mais en tant qu'adulte, c'est autre chose. Alors, Moïse, devenu grand, devait prendre une décision. Rester dans le palais royal égyptien, païen, ou alors suivre la voie divine et être esclave, pour ainsi dire, comme ses compatriotes. Verset 24, Hébreux 11. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quelle décision. Regardez-moi, il a tout devant lui, il peut être grand, il peut être riche, il peut être imposant, tout ce que vous voulez. Autrement dit, il pouvait être vraiment un individu très haut placé. Il refuse tout cela. Il refuse d'être appelé la fille de Pharaon. Il aimait mieux, verset 25, il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alors, je vous pose la question. Un nouveau commencement pour Moïse. Auriez-vous pris cette même décision, vous, si vous étiez à sa place? Quel changement imposé à un tel homme? Autrement dit, il refuse tout ce qui est beau, tout ce qui est fantastique, humainement parlant, et il veut être maltraité par les autres. Pourquoi? Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, pour un peu de temps, la jouissance de péché. Voilà, mes frères et mes sœurs, le secret. Nous devons aussi nous prendre des décisions entre la jouissance du péché pour un peu de temps, ou alors refuser l'appel divin et souffrir, et même, en fin de compte, perdre la raison de notre appel. Autrement dit, Moïse a refusé la jouissance pour un peu de temps, regardant l'opprobre du Christ comme richesse. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la gloire à venir, sur la rémunération, dit la Bible. Comment est-ce qu'il a fait ceci? Exactement comme Abraham. C'est par la foi, verset 27, Hébreux 11, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Autrement dit, il a mis sa confiance en Dieu. C'est votre histoire. C'est mon histoire. Pour nous, c'est autre chose. Nous sommes petits. Nous n'avons pas de grandes décisions à prendre en ce qui concerne notre vie, comme Moïse, comme Abraham. Mais quand même, dans notre vie privée, nous avons des décisions qui sont tout aussi importantes, car il s'agit d'un choix qui nous donne, en fin de compte, un nouveau commencement à notre vie. Pour Moïse, c'était un nouveau commencement, comme c'est le cas avec Abraham, qui avait 75 ans. Pour Moïse, un nouveau commencement a eu lieu lorsqu'il a décidé de quitter le palais de Pharaon et de suivre le peuple que Dieu avait choisi et partager avec ce peuple les souffrances. Ce n'est pas facile. Où en êtes-vous à cet égard? Vous n'êtes pas Abraham, vous n'êtes pas Moïse, ni moi non plus, mais la décision que nous avons prise ou que nous prenons est la même. Sommes-nous prêts à suivre Dieu en toutes occasions et souffrir s'il le faut, ou alors jouir de la vie pour un peu de temps, jouir de la jouissance du péché pour un peu de temps? Notre nouveau commencement a eu lieu lorsque Dieu nous a appelés, lorsque nous avons obéi à Dieu, lorsque nous avons pris la décision de nous rendre à Dieu totalement, de nous faire baptiser, ensuite de suivre la voie divine, ensuite d'avoir le Saint-Esprit en nous par l'imposition des mains de la part d'un ministre de Dieu. Ces décisions ont été prises. Un nouveau commencement de notre vie a eu lieu, mais ce commencement ne se termine pas là. Autrement dit, ce commencement, nous pouvons l'abandonner, nous pouvons l'échanger, nous pouvons, nous, dire non, je ne veux plus continuer ce genre de vie et retourner au monde. Voilà pourquoi, je répète, si dans votre vie privée, si dans votre vie en famille, si dans le travail que vous faites, vous éprouvez des difficultés qui parfois vous découragent, rappelez-vous une chose. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 3, voilà le secret. Autrement dit, nous avons besoin d'appui, de force, d'aide pour pouvoir continuer malgré les souffrances. Apocalypse 3, verset 3, « Rappelle-toi donc maintenant comment tu as reçu et entendu la vérité. » Voilà. Revenez toujours en arrière. Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez entendu l'appel de Dieu? Rappelez-vous cela. Ensuite, revenez en arrière. Ayez cette force de rester à votre appel. C'est ce que dit Jean. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Considérons encore la vie de Job, notre prophète que Dieu a appelé, et tout d'un coup, il a fait face à un nouveau commencement tout à fait différent. Tout comme Abraham, Job menait une vie agréable. Il était riche, important, puissant, une grande famille, il jouissait de tout. Et Satan, notre adversaire, a voulu montrer à Dieu que Job respectait Dieu, que Job obéissait à Dieu parce que Dieu l'avait béni. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu donc un complot, pour ainsi dire, entre Job, qui ne savait rien, Dieu et Satan. Dieu savait, Satan savait, Job ne savait pas. Car Dieu a permis à Satan de tenter Job. Dieu a permis à Satan en lui disant, écoute, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Job ne le savait pas, pourtant qu'il sut. Il faisait de son mieux pour pouvoir vraiment faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Sous l'influence de Satan, il a perdu tout. Ses richesses, ses enfants. Il a même été très très malade, il souffrait. À tel point que lorsque ses amis sont venus le voir, pendant toute une semaine, Ses amis sont assis devant lui sans même parler. Il ne pouvait même pas lui parler comme Job était souffrant. Alors, si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Tout d'un coup, dans sa vie, il y a eu un commencement sous l'influence de Satan, car Dieu avait permis à Satan, je le répète, de tenter Job. Quelle a été la réaction de Job? A-t-il abandonné l'appel divin? A-t-il dit « Non, je ne crois plus en Dieu » Et pourtant, c'est le cas avec certains d'entre nous aujourd'hui. Si Dieu a fait ceci ou cela dans ma vie, je ne crois plus en Dieu, je quitte l'Église. Ça, ce n'est pas l'attitude. Job, humainement parlant, avait toutes les raisons du monde de dire « Non, je ne crois plus en Dieu, car Dieu fait des choses qui ne sont pas justes, alors que moi, je tâche d'obéir à Dieu. » Certes, Job a posé beaucoup de questions, et c'est normal. Il ne comprenait pas, il a posé des questions à Dieu. Et ces questions n'étaient pas des doutes, mais c'était des questions. Écoutez, si vous avez fait quelque chose que vous ne comprenez pas, ou si vous pensez que vous avez besoin d'une réponse, c'est normal que vous posiez des questions. C'est normal que Job eût posé des questions à Dieu. Pas des doutes, des questions. Il ne comprenait pas. Et comment pensez-vous que Dieu a répondu à Job? C'est intéressant. Avec toutes les questions posées, Dieu n'a pas répondu à aucune d'elles. Au contraire, Job chapitre 38, verset 1 à 4, lisez le livre de Job, ça vaut la peine. Vous pouvez voir son attitude. Il n'a pas nié Dieu. Il a posé des questions. Toujours avec la force, la foi, la compréhension, le désir que Dieu lui répondrait. Que se passe-t-il? Job 38, versets 1 à 4. Ça, c'est intéressant. Il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions. Il ne reçoit pas de réponse. Ou bien, il reçoit l'avis de ses amis. Et voilà que Dieu dit, Job 38, verset 1 à 4, il dit, l'Éternel répondit, du milieu de la tempête, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Autrement dit, Job, qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu me poses des questions alors que tu ne comprends rien? Par des discours, dit-il, sans intelligence. Les questions de Job étaient des discours sans intelligence parce qu'il se dirigeait ailleurs que dans le bon chemin. Il dit, Saint-Terrain, comme un vaillant homme, verset 3, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Maintenant, c'est Dieu qui parle. La première question qu'il lui pose au verset 4, c'est où étais-tu, Job, quand je fondais la terre? Voilà une question, posez-vous. Où étiez-vous quand la création a eu lieu? Que faisiez-vous? Et quelle est votre puissance à comparer à celle de Dieu? Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Non. Job n'avait pas d'intelligence, ni vous non plus, ni moi non plus. Ensuite, pendant 3 ou 4 chapitres, Dieu répond aux questions de Job sans vraiment répondre à ses questions. Pendant 3 ou 4 chapitres, Dieu dit à Job, écoute, regarde autour de toi, regarde la création, regarde la beauté de la création. Il dit, tout ça, qu'est-ce qui a fait? Où étais-tu? Voyez-vous, parfois, savez-vous, on peut répondre à une question sans directement répondre à la question. C'est ce qui s'est passé avec Job. Dieu a répondu à Job sans répondre à ses questions. Seulement en lui montrant, écoute Job, regarde où tu es, regarde où moi, l'Éternel Dieu, je suis, et comprends. Dès ce moment-là, lorsque Dieu a terminé son discours, au chapitre 42, Job 42, Job a eu un nouveau commencement dans sa vie. Et oui, malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il possédait, c'était un commencement au début, mais maintenant, c'est un nouveau commencement. Il a commencé vraiment à comprendre qui est Dieu et que Dieu fait toujours les choses à sa façon et que la façon divine d'agir est toujours meilleure que la sienne. Notez comment il répond à Dieu. Job 42, verset 1, 2, 5, 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Voilà un nouveau commencement. « Que rien ne s'oppose à tes pensées. » Voilà un nouveau commencement. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Comme vous, comme moi, nous avons entendu parler de Dieu. « Mais maintenant, dit-il, mon œil t'a vu. » Autrement dit, « Maintenant, je comprends que tu es partout. » Que tu peux faire tout. Voyez-vous, c'est un nouveau commencement. L'œil de Job a commencé à voir Dieu partout. Et c'est le cas. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit, mon oreille, verset 5, avait entendu parler de toi, comme c'est le cas de vous, votre cas, comme c'est mon cas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit, ou t'as vu. La même chose, autrement dit, nous pouvons voir que Dieu est partout. Écoutez, même dans le malheur, Dieu est là. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu est là. Ce n'est pas toujours facile, humainement parlant, pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Mais en fin de compte, si vous êtes sûr que Dieu vous aime, que Dieu vous a appelé, que Dieu a en vue, afin que vous puissiez devenir un enfant dans son royaume, dans ce cas-là, faites-lui confiance. C'est ce que Job a appris, voyez-vous. Il dit, mais maintenant que, dit-il, mon œil t'a vu. C'est pourquoi, dit-il, qu'est-ce qu'il arrive? Alors maintenant, il se débarrasse de sa nature charnelle. C'est pourquoi, dit-il, je me condamne et je me repens. Voilà le commencement du reste d'un individu qui se rend à Dieu. Le baptême, le désir de vouloir être... faire partie de l'Église de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit, tout ça, ça dépend du repentir. C'est ici donc, dans la vie de Job, un nouveau commencement a eu lieu. Job s'est repenti. Il dit, sur la poussière et sur la cendre, c'est une expression qui signifie profondément. Alors, est-ce que Job a tout perdu? Il avait tout, d'accord. Mais regardez ce qui est écrit dans Job, chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Autrement dit, tout ce que Job avait perdu, il l'a regagné. Quand Job eut prié pour ses amis, c'était aussi un nouveau commencement. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé auparavant. Le double. Certes, il a beaucoup souffert, mais en fin de compte, il a reçu le double. Une chose est certaine, en tant que chrétiens, nous aussi nous souffrons. Nous souffrons souvent parce que nous faisons des fautes, nous commettons des péchés. Mais parfois, nous souffrons comme Job, sans savoir pourquoi, mettons. Ou bien parfois, nous souffrons parce que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire et nous savons que si nous obéissons à Dieu, il y a une conséquence, il y a, je veux dire, une amende à payer, humainement parlant. Et c'est le sort des chrétiens. Si nous sommes aujourd'hui chrétiens, nous autres dans l'Église de Dieu, nous faisons des choses qui ne sont pas toujours agréables aux autres qui ne sont pas chrétiens. Par exemple, nous respectons le sabbat, nous refusons de travailler le jour du sabbat, et ce faisant, nous perdons notre travail. Alors, les conséquences, il faut les subir. Parfois, dans notre mariage, nous avons des disputes parce que l'un est converti, l'autre n'est pas converti. Ainsi de suite. Donc, être chrétien a un prix à payer. Nous devons, comme Job, accepter la volonté de Dieu, même face aux persécutions. Je répète, en tant que chrétien, et c'est dans la Bible, nous souffrons en ce bon monde, car ce monde s'est détourné de Dieu. Alors, vous direz, Certains diront dans le monde, pourquoi souffrir, pourquoi suivre le chemin des souffrances alors que nous pouvons vivre une vie facile en ce bon monde? Eh bien, la réponse est donnée dans la Bible avec l'exemple des apôtres du Christ. Parce que, voyez-vous, le Christ a souffert en ce bon monde. Les apôtres ont souffert. Les apôtres ont été persécutés. Et même à un certain moment donné, l'apôtre Pierre a dit au Christ, écoute, tout ça c'est très bien, être des disciples, te suivre, mais qu'est-ce qu'il y a pour nous? Que gagnons-nous, nous qui t'avons suivi? Notez-le, Marc chapitre 10. Pierre, verset 28. Marc 10, 28. Pierre se mit alors à dire au Christ, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nous ?» Jésus répondit, « Je vous dis en vérité, il n'y a personne, regardez-moi la force de cette citation, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, autrement dit à cause de la religion du Christ, à cause des commandements de Dieu. Il dit, qui a quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, autrement dit ses possessions, qui, regardez-moi cette déclaration, verset 30, Marc 10, qui ne reçoivent au centuple. Job avait reçu le double. Ici, Dieu nous dit qu'ils nous reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, entre guillemets, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, c'est-à-dire dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc, l'appel divin se compose d'abord que nous devons quitter, s'il le faut, tout ce qui nous empêche d'être dans le royaume, et nous devons être prêts à souffrir s'il le faut. Et ensuite, nous avons nos récompenses, car, par exemple, prenez l'Église. Dans l'Église, nous avons des amis. Ce sont de vrais amis. Ce sont des sœurs, des frères, si vous voulez, ou bien des pères, si vous voulez. Voilà notre vie présente. Nous sommes donc bénis, mais par-dessus tout ça, nous avons de la vie éternelle en tant que promesse. Voilà où nous en sommes. À plusieurs reprises dans la Bible, le Christ nous recommande d'être comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, en quelque sorte, ne comprend pas beaucoup de choses, mais il oublie ce qu'on lui a fait, il oublie les mauvaises choses qu'on lui a imposées. Un enfant est adaptable au changement. Un enfant, si vous lui dites quelque chose, souvent il le fera, même s'il ne comprend pas. Mais autrement dit, il a un esprit qui écoute. Et le Christ veut que nous puissions être, nous, qui sommes appelés dans l'Église, à être comme des enfants. Autrement dit, avoir l'attitude de changer, l'attitude d'accepter un changement, l'attitude de faire la volonté de notre parent ou de nos parents. Un enfant, voyez-vous, souvent n'a pas peur. Nous, même en tant que chrétiens, les enfants de Dieu, lorsqu'il s'agit d'un changement dans notre vie, nous ne devons pas craindre. C'est un nouveau commencement pour nous. Lorsque nous sommes entrés dans l'Église, je répète, nous avons dû changer beaucoup de choses. Nous avons dû avoir du courage. Nous avons dû être sûrs que Dieu nous protège, nous protégera et nous donnera la force dont nous avons besoin pour faire face au changement. Ça, c'est la foi dont nous avons parlé, d'un Moïse, d'un Abraham ou je ne sais qui. Si vous faites ce que Dieu vous commande, vous aurez la garantie absolue que quels que soient les défis dans ce bon monde, quels que soient les changements qui vous sont imposés, quelles que soient les persécutions, vous aurez quand même la force d'avancer avec l'aide de Dieu et de réussir dans votre vie. Notez encore Luc chapitre 14. Luc 14, verset 25. Regardez la promesse du Christ. Regardez cette force. C'est le Créateur suprême qui vous dit ce que je vais vous citer maintenant. Luc 14, verset 25 à 28. De grandes foules faisaient route avec Jésus et Jésus se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, c'est le Christ qui parle, et s'il ne hait pas, déteste pas, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses frères et ses sœurs, même sa vie, à cause de moi, il ne peut être mon disciple. » Alors, quelle est la signification de ce commandement? Devons-nous détester l'un l'autre? Non, pas du tout. Il fait une comparaison. Autrement dit, si Dieu nous appelle, rien ne doit nous empêcher à répondre à cet appel, quel que soit le prix à payer. Si un membre de la famille veut nous poursuivre, mettons, veut nous faire du mal, nous devons l'aimer, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour l'aider, mais nous devons quand même suivre le Christ. C'est ça que le Christ entend en disant le choix entre quelqu'un d'autre et lui. Et le Christ dit, verset 27, toujours Luc 14, « Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Voilà pourquoi nous autres chrétiens nous souffrons en ce bon monde. Voilà pourquoi la vie est difficile. Mais quel que soit le cas, Dieu est là. Dieu nous protège. Dieu nous aime. Et le Christ ajoute au verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Notez bien, si nous avons de quoi terminer, autrement dit, lorsque nous avons pris la décision de suivre le Christ, lorsque nous avons eu et nous avons maintenant un nouveau commencement, nous devons savoir ou calculer la dépense si nous irons jusqu'à la fin. Je connais beaucoup d'amis, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens qui sont entrés dans l'Église ensuite face aux persécutions, face à des difficultés, ils ont quitté l'Église. Ou bien ils se sont détournés de Dieu. Ou bien ils ont commencé à transgresser ses lois parce que c'était trop difficile. Mais ça, ce n'est pas la solution. Donc, avant de vous engager face à un nouveau commencement, arrêtez-vous, demandez-vous, ai-je de quoi terminer? Ai-je de quoi aller jusqu'au bout sans me détourner de Dieu? Voilà la façon d'agir. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, des pécheurs. Nous faisons des fautes, mais Dieu est compatissant. Dieu nous pardonne nos fautes lorsque nous nous tournons vers lui et nous nous repentons de nos péchés. Du reste, ça c'est la base même, je dirais, d'être chrétien. Avant que nous soyons appelés par Dieu, ou bien le moment de notre appel, nous devons d'abord calculer la dépense. Savoir que nous avons péché, nous repentir de nos péchés, et faire ce que Dieu dit, laissez-moi citer Acte 2, verset 37, « Après avoir entendu ce discours, quelques-uns de ceux qui entendaient, eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà la question que vous posez, la question que je me suis posée. Que dois-je faire? Lorsque j'entends ce que Dieu veut de moi, lorsque je vois que Dieu m'appelle à la vérité, la première question que je me pose, alors, que faut-il que je fasse? Acte 2, verset 37. Donc les gens dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Réponse, verset 38, « Repentez-vous. » Voilà. Autrement dit, Tâchez ce que vous avez fait qui n'est pas conforme à la volonté divine, détournez-vous-en et allez dans le chemin que Dieu vous indique. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les conditions. Dieu vous donne la réponse, mais il faut que nous puissions, nous, être certains que nous tournons bon jusqu'à la fin. Et non pas, comme le Christ a dit, commencer un tour et ne pas avoir assez pour terminer notre travail. Dès le moment où vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a eu dans votre vie un nouveau commencement. Un commencement qui vous met sur la voie de la vie éternelle. Un commencement qui lutte contre vos penchants charnels. Un commencement qui vous donne la force de vous maîtriser face à la tentation. Notez ce que l'apôtre Paul dit en ce qui concerne le baptême et votre réaction, notre réaction à nous tous. Il dit, que dirions-nous? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il parlait de la grâce divine. Et Paul dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, dès le moment où vous avez été baptisés en Christ, vous êtes morts au péché. Comment vivrions-nous, dit-il, encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà ce que c'est que le baptême. Voilà ce que c'est que se tourner vers Dieu et être prêt à faire sa volonté. Si vous êtes du Christ, si vous avez été vraiment appelé par Dieu, que ce soit il y a 2 ans, 3 ans ou bien tout nouveau, avez-vous pris la décision de suivre Dieu, quelles que soient les circonstances? Après votre baptême, avez-vous vraiment dit, « Bon, je suis maintenant mort au péché et je suis enseveli en ce qui concerne ma nature charnelle. » Verset 4, Romains 6. Nous dit-il, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà, nouveauté de vie. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils avaient certes, quelques-uns ont reçu les prophètes, mais d'une façon générale, les gens avaient la force de lutter contre le péché par la force qu'ils recevaient, mais ils n'avaient pas la force nécessaire pour lutter contre le péché, tant dans la lettre que dans l'esprit. Ils pouvaient lutter contre le péché dans la lettre. C'est seulement après la mort et la résurrection du Christ que nous avons eu cet Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous permet maintenant de suivre les lois divines et dans la lettre et dans l'esprit. Mais revenons à l'Ancien Testament. Les gens comprenaient les commandements de Dieu dans la lettre de la loi. Et Dieu a appelé son peuple de loin de l'Égypte. L'Égypte, c'est le centre dans la Bible du péché. Donc, Dieu a appelé les gens de l'Égypte afin que ces gens-là se tournent vers Dieu et commencent à observer les lois divines, au moins dans la lettre. Donc ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté en quelque sorte le péché. Et pour entrer dans un pays promis. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, bien que Dieu ait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, les gens se sont détournés de lui. Les gens n'ont pas accepté Dieu. Lisez 1 Corinthiens chapitre 10. Je n'ai pas le temps de lire tout, mais tâchez de comprendre. Laissez-moi au moins dire quelques versets ici. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Paul dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont passés au travers de la mer, comme nous passons en quelque sorte au travers de la mer. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage. C'est quoi ce breuvage? Et maintenant, nous entrons dans le Nouveau Testament. Ils ont tous bu ce breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà. Voilà le changement maintenant qui parvient dans notre vie lorsque nous commençons à suivre la voie divine et par la force du Christ, par le Saint-Esprit, nous commençons à observer et la lettre de la loi et l'esprit de la loi. L'apôtre Paul dit ouvertement que lorsque nous sommes appelés, nous sommes les esclaves du Christ. L'apôtre Paul ajoute également que si nous sommes appelés, si nous sommes membres de la famille divine, nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Notez-le, 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. « Ne savez-vous pas, dit Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Voilà mon corps charnel, voilà mon esprit charnel. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, donc mon corps, mon esprit, est le temple du Saint-Esprit. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dès ce moment-là, il y a eu un nouveau commencement. Dès le moment de mon baptême, lorsque je reçois le Saint-Esprit, il y a un nouveau commencement. Et que je ne m'appartiens plus à moi-même, que j'appartiens à Dieu. Car vous avez été, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ensuite, Paul dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Oui, ça revient au même. Nous sommes les esclaves du Christ, mais pas pour souffrir, au contraire, pour être bénis. Les voies divines, mes frères et mes sœurs, n'entravent pas notre liberté, au contraire. Les lois divines nous permettent de jouir de la liberté, de la liberté de la bonne façon, de jouir de la liberté de la bonne façon. Les lois divines nous mettent sur la bonne voie. Les lois divines nous permettent de jouir de tout ce qui est bon, de tout ce qui est juste. Prenez encore le roi David, son exemple, puisque je donne des exemples. Le roi David était un homme courageux, un serviteur de Dieu. Il a été appelé, mais dans sa vie privée, il a fait des fautes, il a commis l'adultère, il a tué. Mais, autrement dit, il a eu d'abord un commencement lorsque Dieu l'a appelé. Mais quel a été le vrai commencement dans la vie de David? Quel est le moment où il a vraiment changé de vie, pour ainsi dire? Psaume 51. Après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, voilà qu'il se rend compte, parce qu'il a été en même temps adultère et aussi criminel, parce qu'il a fait de sorte que le mari de Bathsheba meurt. Tout d'un coup, David se voit comme il est. Tout d'un coup, il voit les péchés qu'il a commis. Il a fait une prière que nous devons apprendre par cœur, répétez de la bonne façon. Notez-le, psaume 51. Lisez le chapitre entier. Je prendrai seulement un ou deux versets, mais vous-même, lisez le chapitre entier. Il dit, « Oh Dieu, verset 3, psaume 51, verset 1, « Aie pitié de moi dans ta bonté. » Dieu est toujours bon, toujours fidèle. « Selon ta grande miséricorde, Dieu est plein de miséricorde. Efface mes transgressions, Dieu seul peut effacer nos transgressions. » Il dit, « Aie pitié de moi, dit-il, dans ta bonté. Détourne ton regard de mes péchés. » Là encore, si vous pouvez faire une prière pareille, si vous pouvez dire à Dieu ouvertement, avec courage, avec force, avec compréhension, avec détermination, « Écoute Dieu, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. » Mais quelle est la condition? Il dit, « Crée en moi, verset 12, crée en moi un cœur pur. » Cela ne peut se faire que lorsque vous recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous un cœur pur. Il dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». La seule façon que vous pouvez avoir en vous un esprit qui soit disposé, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit après votre baptême, après votre repentir. Dès ce moment-là, vous n'êtes plus vous-même, à vous-même, mais vous êtes au Christ. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'esclave du Christ pour votre bien. C'est à ce moment-là, David a vraiment ressenti en quelque sorte ce que c'est que le repentir. Et il demande à Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cet esprit bien disposé ne peut vous venir ou bien venir à vous que lorsque vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Voilà, pour ainsi dire, un nouveau commencement dans la vie de David. Un vrai nouveau commencement. Il a demandé pardon, il a pris la décision de suivre la volonté de Dieu, de faire en toute chose ce que Dieu lui demande et de se repentir de ses péchés. Il demande à Dieu de renouveler son esprit. Vous savez, c'est intéressant dans la vie, dans le Nouveau Testament, vous avez le même exemple avec l'apôtre Paul. Paul a persécuté les Christs. Paul a persécuté les chrétiens. Paul a été après tous les chrétiens parce que dans son esprit, il pensait que cette nouvelle secte, le christianisme, était contre la volonté de Dieu. Mais lorsque Dieu a ouvert l'esprit de Paul, Paul a eu ce même sentiment que David. Notez ce qu'il dit dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Maintenant qu'il est converti, maintenant qu'il comprend, il dit, « Je vous exhorte, dit-il, frère, par les compassions de Dieu. » Compassion signifie amour, amour sincère, souffrance. « Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » J'ai parlé de cela il n'y a pas longtemps. Un sacrifice vivant, autrement dit, il faut faire quelque chose. Saint aux yeux de Dieu, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, dit-il, un culte raisonnable. Ça, voilà ce que c'est qu'être vraiment un membre de la famille divine. Pour le moment, humainement parlant. Ensuite, ça sera donc lors du changement, lorsque nous serons des êtres spirituels. Ensuite, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, dit-il, par le renouvellement de votre intelligence. C'est exactement la même chose que David. Il a été transformé par le renouvellement de son intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau en ce qui concerne les commandements de Dieu. Mais la question que je vous pose, vous qui êtes membre de l'Église de Dieu, vous qui croyez en Dieu, vous qui cherchez Dieu, est-il ainsi en ce qui vous concerne? Vous laissez-vous par vos sentiments charnels ou par les commandements de Dieu? Avant de terminer, je voudrais encore vous citer l'apôtre Paul. Paul, je le répète, a persécuté les chrétiens. Paul pensait bien agir. Paul avait une détermination de faire ce qui est juste et il pensait que ce qu'il faisait était juste aux yeux de Dieu. Mais lorsque Dieu lui a ouvert l'esprit, la vie de Paul a changé. Actes chapitre 9, versets 1 à 2. Regardez voir. Paul était un homme plein de détermination. Il s'appelait à l'époque Saul. Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur afin qu'il puisse avoir des lettres de Damas, afin qu'il persécute, je paraphrase, afin qu'il persécute ceux qui suivent la nouvelle doctrine et que Paul les amène à Jérusalem pour être condamnés. Qu'est-ce qui se passe? Il était en chemin, verset 3, tout d'un coup, une lumière apparaît, verset 4. Et Saul, tombe à terre, une voix lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Regardez-moi, voilà maintenant, voilà comment un nouveau commencement peut avoir lieu dans votre esprit. Paul à Saul, à l'époque, a posé deux questions. Lorsqu'il a été frappé, ou abattu, ou bien, je dirais, vraiment secoué par Dieu, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» D'abord, vérifiez toutes choses. Il veut être sûr que ce n'est pas un démon qui lui parle. Il dit, « Qui es-tu ?» Le Christ lui a répondu. Ensuite, la deuxième question, « Que veux-tu que je fasse ?» Voilà un nouveau commencement. Dès ce moment-là, la vie de l'apôtre Paul a changé. Il a fait toujours ce que Dieu lui avait dit. Face à toutes les persécutions, il ne s'est jamais détourné de Dieu. Il n'a pas dévié le chemin. Il s'est toujours rappelé que Dieu l'avait appelé pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Et ce nouveau commencement dans la vie de l'apôtre Paul est pour nous une bénédiction parce que, voyez-vous, avec tout ce que Paul a écrit, grâce à ses épîtres, 14 épîtres dans le Nouveau Testament, nous pouvons apprendre la voie à suivre pour être de nouvelles créatures en Christ. C'est Paul qui nous a montré comment vraiment suivre le Christ, comment vraiment faire la volonté de Dieu malgré les souffrances. Oui, que dirais-je ? Je peux encore citer les autres apôtres, les apôtres de Christ. Lorsque le Christ les a appelés, quelle a été leur attitude ? Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Le Christ marchait, il a vu Simon appelé Pierre, André son frère, qui étaient des pêcheurs. Alors le Christ a dit, suivez-moi, verset 19. Et je vous ferai pêcheur d'hommes. Verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets le suivre. Voilà une détermination. Voilà un nouveau commencement dans leur vie. Plus tard, verset 21, il a vu le Christ, a vu Jacques, son frère. Ils étaient aussi des pêcheurs. Le Christ les a appelés, verset 22. Ils laissèrent leur barque, leur père, et suivre le Christ. Mes frères et mes sœurs, une chose est sûre. Lorsque vous recevez cet esprit, votre esprit change. Dès ce moment-là, un nouveau commencement a lieu dans votre vie. Dès ce moment-là, vous voyez les choses différemment. Et vous aurez ce que nous appelons les fruits de l'esprit, qui sont amour, joie. Vous n'avez qu'à lire Galates chapitre 5. C'est ça la base. Vous aurez cette compréhension de ce qu'est la vraie conversion. À l'époque de Noé, les gens s'étaient détournés de Dieu. À tel point que, franchement parlant, la vie ici-bas était devenue absolument impossible à mener. Et les gens s'étaient absolument détournés de Dieu. Et Dieu devait mettre fin à ce genre de vie pour pouvoir accomplir son dessein ici-bas. Notez-le, Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était tellement grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, regardez-moi, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà pourquoi nous avons eu le déluge. Et l'Éternel, donc, a exterminé l'homme, sauf Noé et sa famille. La seule solution, mes frères et mes sœurs, c'est vraiment de se tourner vers Dieu, de lutter contre notre nature charnelle, de savoir que Dieu nous aime, que Dieu va établir, en fin de compte, une nouvelle administration sur cette terre. Un nouveau gouvernement, ça sera un nouveau monde. Le monde de demain, le monde à venir. C'est ça. Et ça sera vraiment un grand nouveau commencement. Lorsque les gens n'auront pas des hommes sur leur tête ou à leur tête pour les guider, lorsque le Christ, le Créateur suprême, sera notre guide. Et il y aura une nouvelle terre sur cette terre. Il y aura de nouveaux cieux, comme c'est marqué dans Apocalypse, chapitre 21. Ça sera un monde nouveau, un nouveau commencement. C'est ça que nous voulons tous. C'est pour cette raison que nous sommes appelés. C'est pour cette raison que Dieu nous donne la force et son esprit afin que nous puissions marcher dans la voie qui amène non pas seulement notre salut, mais le salut du monde. Vous, mes frères et mes sœurs, et moi, nous avons une tâche à accomplir. Nous avons une obligation d'aider nos frères et sœurs en ce bas monde, afin qu'eux aussi comprennent ce que vous comprenez maintenant, afin que nous tous, main dans la main, nous puissions entrer dans ce monde nouveau, le merveilleux monde à venir.